سيدنا حبيب الله، سيدنا خير خلق الله، عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه. ما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc nous allons continuer, inshallah ta'ala, notre cours de la Tahawiyya, dont on a arrêté depuis quelques mois, on va dire. Et nous sommes arrêtés quand l'auteur, Imam al-Tahawi rahmallahu ta'ala, avait commencé à parler du qadar, tout en commençant à parler du lawh al-mahfouz, à savoir la table bien gardée. Et comme je l'ai déjà fait dans les cours précédents, nous allons essayer de simplifier le plus que possible les textes de l'imam Tahawi, bien évidemment tout en essayant d'être le plus fidèle à ce que l'imam Tahawi a voulu dire. Pourquoi dont je tiens à préciser sur cette question-là, car aujourd'hui, malheureusement, comme vous le savez, beaucoup de gens prétendent donner des commentaires à la Tahawiyya, ils l'ont vraiment commenté, mais malheureusement, sont loin d'être fidèles au texte de l'imam Tahawi. L'imam Tahawi dit une chose, et ces gens-là, disent, non seulement ils disent, disent pas ce que l'imam Tahawi, mais ils disent le contraire de ce qu'a dit l'imam Tahawi. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه من تحاول ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. Donc le premier texte de l'imam al-Tahawi rahmallahu ta'ala nous parle de ce que le croyant devrait croire en ce qui concerne la table bien gardée, al-lawh wa al-qalam. La table bien gardée, nous n'avons pas beaucoup de détails. Nous devrons croire en tant que croyants qu'elle existe, la table bien gardée, que le qalam, on peut traduire par la plume, existe, et que ce sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, et que la table bien gardée, Allah azza wa jal a ordonné à la plume d'écrire sur la table bien gardée, tous ces livres, ainsi que tout ce qui va se passer dans cet univers, dans ce monde, devrait être écrit par la plume. Alors, la table bien gardée, c'est une créature d'Ismon Nourani, qu'Allah Azza wa Jal a créé. Alors, Al-Qalam aussi, c'est une des créatures qu'Allah Azza wa Jal, lumineuse, le nour, de lumière, de nour, lui a ordonné d'écrire tout ce qui va se passer dans cet univers, dans ce monde d'ici-bas, ainsi que toutes les paroles d'Allah Azza wa Jalla révélées dans les livres envoyés à travers ses prophètes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été créé en premier. Est-ce que c'est l'arche, le trône, comme on va parler du trône plus tard? Est-ce que c'est la plume? On a des hadiths, comme le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi rahmallahu ta'ala, qui dit que la première des choses qu'Allah a créées, c'est le qalam, c'est la plume, ou bien c'est l'arche, ou bien c'est l'eau. Bien sûr, il y a une divergence sur cette question-là, et il y a d'autres qui font partie dire que c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je laisse cette question-là sans détail. Mais ce qui est important, c'est de croire en l'existence de la table bien gardée, c'est de croire en l'existence de l'Al-Qalam, et que c'est Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je dis ici peut ne pas être partagé par beaucoup. Mais la science, C'est l'héritage qu'on a hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers nos chouyouk jusqu'à Sidna Rasulullah. Ça nous semble évident, cette transmission, car c'est une responsabilité que nous devons devant Allah subhanahu wa ta'ala et que nous répondrons tous un jour. Quand l'imam al-Busayr rahmallahu ta'ala parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que parmi sa science, ومن علمه علم اللوح والقلم صلى الله عليه وسلم العلم de la plume et العلم la science de la table bien gardée, c'est-à-dire que Sina Rasulullah صلى الله عليه وسلم s'inspire de sa science, de ce qu'il peut rendre de la table bien gardée, ou qu'il a un savoir, il a des informations qui existent dans la table bien gardée. Alors il y a beaucoup qui ont réagi à cette affirmation de l'imam al-Busayr, le grand fout amoureux du prophète صلى الله عليه وسلم, en disant qu'est-ce que c'est que ce chiffre, qu'est-ce que c'est que ça, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut savoir des choses, c'est du ghaïb, c'est le monde invisible, il ne peut pas savoir ces choses-là, seul Allah Azza wa Jalla. C'est comme si on veut limiter la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla ne peut-il pas donner le savoir et la connaissance à Sidna Rasulullah, lui faire savoir ce qui est écrit dans la tête bien gardée? Si Cheikh Ibn Taymiyyah rahmallah nous dit, et cette histoire rapportée par cette question, elle est rapportée par son élève Ibn al-Qayyim, il est heureux de la rapporter, et nous croyons à cela, que Ibn Taymiyyah rahmallah dit, en parlant des Tatars, que l'année prochaine nous allons gagner dans telle bataille contre les Tatars. Alors les gens qui étaient, ils juraient, ils disaient Wallah, nous allons gagner la bataille. Les gens qui l'entouraient, ils ont dit, ya Cheikh, dis au moins Inch'Allah, tu dis nous allons gagner, mais c'est des choses de vraies l'année prochaine. Ibn Taymiyyah rahmallah, il dit, je la dis avec affirmation et détermination. Car je l'ai vue écrite sur la table bien gardée. Et nous, on dit que c'est fort possible que Ibn Taymiyyah rahmahullah, il l'a vue écrite sur la table bien gardée. Allah Azza wa Jalla peut dévoiler à n'importe qui parmi ses créatures des choses. Alors, comment peut-on, cette histoire elle est rapportée par Ibn Qayyim, comment ces gens-là qui refutent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse avoir une information de la table bien gardée, mais ils ne la refutent pas quand il s'agit d'Ibn Taymiyyah rahmallah. Je ferme la parenthèse. Le maqal al-shaykh wa rahmallah, wa bi jami'i ma fihi qad luqim. Et tout ce qui se passe, nous devons croire que tous les livres révélés, elle est écrite dans la table d'un gars. Qala ta'ala fi sourati Yasin. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Toute chose, nous l'avons écrite, précisée, fi imamin mubin. Quelques ulama ont dit, imam mubin, c'est la table d'un gars. Il a dit aussi, dans sourate al-Qamar, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Et toute chose, grande ou petite, elle est écrite, c'est-à-dire dans la table bien gardée. Et quand il dit Cheikh Rahmallah, wa bi jami'i ma fihi qad ruqam, c'est-à-dire que toute chose précise avec tous ses détails écrite dans la table bien gardée. Bien sûr, il y a une distinction entre la table bien gardée et Ummul Kitab. Ummul Kitab, la mère des livres. La mère des livres, ce sont les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'elles soient écrites, qui se passent dans cet univers, tout ce qui se passe dans le monde, dans la vie d'ici-bas, mais qui ne s'efface pas. Par contre, il y a des choses qui sont écrites dans la table bien gardée, et que Allah azza wa jalla ordonne à la plume de réécrire autre chose à la place d'une chose qu'il a écrite, pour une sagesse que seul lui, il la connaît. Tel que un croyant qui fait un dua, Allah, à travers ce dua-là, puisqu'il a fait ce dua-là, et Allah sait à l'avance qu'il va faire ce dua-là, il ordonne aux anges d'effacer et ordonne à la plume de réécrire autre chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné d'écrire au début. À partir de là, la table bien gardée, il y a des choses qui peuvent être effacées. Par contre, dans la mer des livres, rien ne peut être effacé. Alors, وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء ستو les humains et les djinns, الخلق, tout ce que Allah Azza wa Jalla, ainsi que les anges, tous ceux qu'Allah Azza wa Jalla a créés, اجتمعوا, se réunissent, كلهم, لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله, الله a décidé, a écrit, a voulu qu'il soit ainsi, فأنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه. Si toutes ces créatures se rassemblent afin d'écrire une chose qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu, et on va détailler cette question d'écrire, hein, le qadar, comme on dit le maktoub, ce qui a été écrit. Si toutes les créatures, djinn, malaïka, les anges, tous les humains, se réunissent à écrire, à vouloir qu'une chose se passe qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu, ils ne pourront pas, disait Imam Tahawi. Il rajoute, ولو اجتمعوا كلهم على شيء, et s'ils se rassemblent tous, لم يكتبه الله, pour écrire quelque chose, c'est-à-dire soit ils se rassemblent au début, c'est-à-dire pour qu'ils effacent au début, ils se rassemblent tous pour effacer une chose qu'Allah a écrite, ils ne pourront pas, et en second, ils se rassemblent tous pour écrire quelque chose qu'Allah n'a pas écrit. C'est-à-dire soit effacer une chose qu'Allah n'a pas voulu, soit écrire une chose qu'Allah n'a pas voulu. جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La plume ne peut écrire jusqu'à la fin des temps que ce que Allah Azza wa Jalla lui a ordonné d'écrire. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. Toute chose qui ne touche pas l'abd ici, c'est la créature qui ne touche pas, que le qadar n'a pas voulu atteindre. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. N'avait pas à l'atteindre, car Allah Azza wa Jal ne l'a pas voulu. وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَ. Et ce qui l'a touché ne peut pas ne pas le toucher, car Allah a décidé ainsi. Bien sûr, les uns peuvent poser une question, dire, si on entend ce texte de l'imam Tahawi, rahmallah, ça prouve que c'est comme si l'homme n'a pas de responsabilité, puisque c'est Allah Azza wa Jalla qui a tout décidé ainsi. Et ça, c'est l'appel al-qada wa al-qadar. C'est-à-dire al-qada wa al-qadar. D'accord ? Et ce que Allah Azza wa Jalla a décrété dans l'azal, c'est-à-dire avant même la création de ce monde-là. Cette question du qadar al-qadar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, il va dire al-qadar fa amsiku. S'il s'agit du qadar, quand on parle de cette question du décret et la prédestination, retenez-vous, ne parlez pas, ne traitez pas ce sujet-là, car de toutes les façons, personne ne connaît son vrai secret comme ont expliqué tous les commentateurs de la Tahawiyya. Je tiens à souligner que les commentateurs de la Tahawiyya, ils sont au minimum une vingtaine. Malheureusement, on n'a qu'un seul commentaire qu'on peut trouver, je parle arabophone, dans les librairies, les marchés, à savoir celle de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, bien sûr, qui n'est ni Hanafi ni rien du tout, ni Maturidi, ni Ash'ari, ni Hanafi. Il a une croyance purement anthropomorphiste qui va à l'opposé de ce que l'imam Tahawi dit. D'ailleurs, il suffit de voir ce qu'il dit quand il nie qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit dans la direction du haut. Le commentateur dit non, il est dans la direction du haut, et tous ceux qui sont partis dans ce sens-là. Et qu'il, l'imam Tahawi dit, voilà, tahwi il jihad tout sit, tout que c'est al-mubtada'at, il n'est pas dans une direction comme toutes les créatures qui sont soit à gauche, à droite, avant, arrière, en haut, en bas. Et Allah Azza wa Jalla n'est ni à gauche, ni à droite, ni à avant, ni à l'arrière, ni en haut, ni en bas. Et on va expliquer cette question du haut. C'est pas une question de le haut, c'est pas au-dessus, c'est pas par la direction, mais au-dessus par sa puissance, par sa valeur, par sa science. Comme l'ont dit tous les commentateurs et tous les exégètes du Coran. Ala yatiha. La question que traitait l'imam Tahawi est très pertinente. Il nous dit que sachez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de toutes choses. L'homme, bien sûr, il est responsable de tous ses actes, comme il va l'expliquer plus loin, car Allah Azza wa Jal, comme nous l'ont expliqué tous les spécialistes de la croyance, commençant par Imam Abu al-Hassan al-Sha'ri rahimahullah, passant par al-Juwayni, al-Ghazali, al-Subki, al-Suyuti, al-Baqillani, Ibn Fawrak, tous ces grands monuments du savoir de la croyance sunnite, nous expliquent qu'Allah Azza wa Jal nous a donné une responsabilité dans la réflexion, dans la pensée, dans la décision intérieure, dans notre aql, dans notre foi, dans notre cœur, de faire ou de ne pas faire une chose. Quand nous aurons décidé de faire une chose, et nous avons atteint un degré qui s'appelle al-azm. Al-azm, c'est-à-dire le fait de décider d'une chose, de faire une chose ou de ne pas faire une chose. C'est-à-dire tu as la décision de faire et de ne pas faire une chose. Tu as atteint un degré de savoir. Allah Azza wa Jalla t'a donné un aql, il t'a donné une connaissance, il t'a donné un savoir, il t'a donné de la science. Tu veux faire une chose ou tu ne veux pas faire une chose. Quand tu décides de faire un acte, tu l'as dans ta pensée, tu l'as dans ta foi, et tu décides de faire cet acte-là, et tu veux le faire, il ne reste qu'une seule chose, la création de l'acte. Allah subhanahu wa ta'ala te crée l'acte, c'est-à-dire la création vient d'Allah, et l'acquisition de l'acte vient de toi. C'est-à-dire, nous allons acquérir un acte qu'Allah Azza wa Jal a créé pour nous. Et cet acte, il peut être un acte de bien, comme peut-être un acte de mal. Donc la création de l'acte vient d'Allah, et l'acquisition de l'acte vient de l'homme. Il faut bien retenir cette question détaillée que l'imam Abu Hassan al-Sha'ri a expliquée. Et bien sûr, il a retiré des versets coraniques. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque âme, elle n'est responsable de ce qu'elle a acquis. C'est le verset. Ils ont tiré toutes ces explications de leur croyance. C'est pas de leur pensée comme ça. C'est ulama. Ils ont tiré tout leur savoir des versets coraniques. C'est-à-dire la question du kasb chez l'imam Abu Hassan al-Sha'ri, qui est une question très complexe. Mais on essaie, inshallah ta'ala, de l'expliquer et de dire que la responsabilité de l'acte de l'homme, c'est son acquisition à ce que Allah Azza wa Jalla lui a créé quand il a voulu un acte, accomplir un acte. Donc Allah Azza wa Jalla le lui crée, mais il ne lui crée pas à partir de la pensée ou à partir de vouloir faire une chose, mais il lui crée à un moment donné quand toutes les prédispositions et les décisions sont réunies, il ne reste que la création de l'acte, Allah Azza wa Jalla le lui crée. Et ce point-là décisif de la création de l'acte, quand il ne reste que la création de l'acte, ça s'appelle al-azm. Al-azm, c'est إذا عزمت فتوكل على الله. Donc ils ont tiré du verset coranique le mot azm. Donc c'est une station, c'est un degré où l'homme, quand il arrive à ce azm, il ne peut pas faire marche arrière. C'est une décision qu'il a prise, Allah Azza wa Jalla lui crée l'acte. Cela dit, si j'avais pensé à faire quelque chose, est-ce que automatiquement Allah Azza wa Jalla me crée l'acte? Non. Allah Azza wa Jalla te crée l'acte quand tu arrives à un point décisif que tu veux que l'acte soit sous ta responsabilité. Allah, tu le crées, qu'il soit bien, qu'il soit mauvais. Cela dit aussi qu'Allah peut ne pas créer l'acte à quelqu'un qui veut protéger. Quel awliya al-anbiya ou ma'soumoun ou al-awliya ou ma'poudoun. Donc les prophètes ma'soumoun, c'est-à-dire sont protégés par la isma, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les bien-aimés d'Allah Azza wa Jalla aussi, que Allah Azza wa Jalla veut protéger. Des fois, il y a des humains, il veut faire un péché, mais Allah subhanahu wa ta'ala décide, il veut l'empêcher de faire un péché. Donc, j'ai essayé ici d'expliquer un petit peu la croyance sunnite sur la question de l'acte, l'acquisition de l'acte chez l'imam Abu Hassan al-Sha'ri. Cette acquisition, elle est pertinente. L'imam Tahawi rahmahullah ta'ala nous dit que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit, il est ainsi dans cet univers. Allah Azza wa Jal, il est juste. C'est lui qui a créé tous les actes. C'est lui qui a voulu que tout soit ainsi. Mais cela n'enlève pas la responsabilité des humains. Car comme Allah Azza wa Jal sait à l'avance ce que tu veux faire, donc il a ordonné à la plume d'écrire à l'avance ce que toi tu allais faire. Ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jalla t'a obligé de faire un acte, mais comme il le sait à l'avance, il a ordonné à la plume d'écrire sur la table bien gardée ce qui va se passer. Ensuite, قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. Il faut que chaque être humain sache, أن يعلم أن الله قد سبق علمه, que Allah, par sa science, il sait à l'avance ce que va faire toute créature. Les uns vont dire, alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer et le paradis? Pourquoi Allah Azzawajal va me punir puisqu'il sait à l'avance que je vais faire du mal, que je ne vais pas être un croyant? Elle est où ma liberté? Ta liberté, elle est dans ton acte et ta décision et ton choix que tu as fait avant Allah Azzawajal. Le fait qu'il sait à l'avance que tu vas devenir croyant ou que tu vas devenir non-croyant, tu vas faire des actes de bien ou des actes de mal, ça ne veut pas dire que c'est lui qui t'a forcé. Comme c'est un ilah, comme c'est un dieu, comme c'est le créateur, c'est normal qu'il sait à l'avance. S'il ne sait pas à l'avance, ce n'est pas parmi ses attributs, sa qualité, l'ouluhiya, il n'est pas le créateur. Mais puisque c'est le créateur, donc c'est normal qu'il sait à l'avance. Mais est-ce que pour cela, c'est lui qui a voulu que tu passes l'acte? Non, le choix est de toi, c'est toi qui as choisi, c'est toi qui as voulu, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait que te créer l'acte que toi, tu as voulu qu'il soit créé pour toi. Donc, tu es responsable de tes actes et Allah Azza wa Jal, il les connaît à l'avance, comme a dit l'imam al-Tahawi. Ensuite, il a dit فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَبًا. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé ainsi, avec sagesse incontournable. لَيْسَ فِيهِ نَقِيرٌ. Rien ne peut refuter, opposer, وَلَا مُعَقِّبٌ. Et rien ne peut venir effacer. Après avoir écrit, wala muzil, rien ne peut l'enlever, wala mughayyir, rien ne peut le changer, wala muhawwil, synonyme de mughayyir, rien ne peut le transformer, wala naqis, rien ne peut le diminuer, wala za'id, rien ne peut l'ajouter, min khalqihi fi samawati wa ardi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose, il l'a créée comme il veut dans ses fins détails, et personne ne peut l'effacer, ou l'ajouter, ou l'avancer, ou le reculer. Comme a dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahmallahu ta'ala, laysa fil imkan abda'u min makan. C'est-à-dire, dans cet univers-là, rien ne peut être que ce que Allah Azza wa Jal a voulu. C'est pour cela, quand tu vois une chose, il lui dit, soit elle est ainsi. Nama amru idha arada kyan yakul lahu, kun fayakun. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé toutes choses avec science, détermination, avec une science bien déterminée, minutieusement, avec sagesse, avec une science vraiment détaillée, un détail impensable, inimaginable. Donc, est-ce que quelqu'un peut avancer une chose qu'Allah a décidé qu'elle soit? Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut la reculer? Est-ce qu'il peut l'effacer? Est-ce qu'il peut la changer? Personne ne peut faire cela. Bien que Allah Azza wa Jal nous dit dans le hadith, la yuruddu al-qadar illa du'a, rien ne peut changer ou refuter ou faire obstacle au qadar, ce qui a été écrit, sauf le dua, sauf si la personne elle fait dua, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les ulama, ils ont dit aussi, ce dua, il fait partie du qadar. Allah sait à l'avance que tu vas faire un dua qui va exaucer ton dua, alors il ordonne aux anges d'effacer ce qui a été écrit au début et accepter ton dua. Il y aura quelque chose d'autre qui va être écrit, et c'est quelque chose d'autre qui va être écrit, c'est des choses qui vont être écrites dans, comme je vous ai dit tout à l'heure, au Moukitab, où les choses qui ont été écrites éternellement ne changeront pas. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal ordonne d'écrire une chose pour l'effacer après? Bien sûr, pour une sagesse que celui connaît et pour nous inciter à faire le droit. Okay. Thumma qala al-shaykh wa rahmallahu ta'ala. وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِعْتِرَافِ وَتَوْحِيدِ اللَّهِ. Donc ça fait partie de la vraie croyance. Un iman, celui qui croit en Allah, il faut qu'il ait confiance qu'Allah Azza wa Jal est le juste et que sa sagesse, sa science, sa clémence, c'est eux qui nous guident et qui nous ouvrent le basira, bien sûr. Et nous devons croire que Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid al-qahar, al-jabbar al-mutakabbir, c'est lui qui nous donne la foi. Il donne à celui-là la foi, il facilite à l'autre la mécréance. Alors, est-ce que ce sont nos actes qui nous font rentrer au paradis? Est-ce que ce sont nos actes qui nous font rentrer en enfer? Comme dira l'imam al-Tahawi plus loin, et a dit l'imam al-Bayjouri, l'imam al-Qani dans la Jawhara, si Allah Azza wa Jal nous fait rentrer au paradis, c'est par sa rahma. Par contre, si il nous fait rentrer en enfer, c'est par sa justice. Donc ce sont nos actes et la justice d'Allah Azza wa Jal, s'ils sont mauvais, qui nous font rentrer en enfer, ou les adoubillah. Par contre, si on rentre au paradis, par la rahma d'Allah Azza wa Jalla. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, même toi, c'est par la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu rentres au paradis, c'est pas par tes actes. Il a dit, même moi, c'est par la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa clémence, que je rentrerai au paradis. Donc, Cheikh Yaqoul, wa dhalika min aqdil iman. Cela, croire au qadar, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril, an tu'mina bil qadari. De croire au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa usulil ma'rifa, c'est le cœur, c'est le fondement du savoir, wal i'tirar, c'est la reconnaissance, c'est la connaissance du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid Allah ta'ala fi rububiyyati. Donc le tawhid Allah azza wa jalla de sa seigneurie, c'est-à-dire qu'il est le seigneur. On ne fait pas distinction, comme on entend toujours qu'il y a trois tawhid, il faut répartir. Non, il y a, ça c'est de n'importe quoi. Le tawhid est un, il est indivisible. C'est ce genre de trinité, il faut plus en parler de cela. Qu'Allah guide ceux qui ont réparti ce tawhid-là en trois. Allah Azza wa Jalla qu'il wahid tawhid, la ilaha illa Muhammad Rasulullah. Il n'y a pas de différence entre le tawhid de Rububiya, le tawhid de Uluhiya, Asma wa Sifat. Le bédouin, quand il vient voir le prophète, il lui dit, dis la ilaha illa Muhammad Rasulullah, tu rentres au paradis. Il dit, il n'y a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète, il rentre au paradis. Bien sûr, il faut accomplir la prière, c'est bien, salat et al-dalik. Mais cette répartition, comme les Taymiyyah rahmallah a inventé, un tient pas la route, et ceux qui l'ont suivi ont fait une erreur monumentale, car malheureusement c'est à partir de cette répartition qu'on a rendu beaucoup de musulmans mécréants et qu'on s'est légitimé même leur massacre, etc. Allah yadim. Thumma qala shaykh rahmallah, kama qala ta'ala fi kitabihi, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, wa qala ta'ala, wa kana amullahi qadaran maqdura. Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé, a toute chose lui a donné sa création avec détermination, avec précision, avec science. ثم قال تعالى رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. Il dit malheur à celui qui devient adversaire, opposé, qui s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala par la non-reconnaissance du qadr. Là, il fait allusion aux Mu'tazilites et les sectes égarées qui sont sortis de cette expression-là en disant soit que l'être humain est créateur de ses actes, comme on dit les Mu'tazilites, que l'homme, c'est lui qui crée ses actes, et ça c'est faux, l'homme ne crée rien du tout, il ne fait que transformer la matière, même dans ce monde ici-bas, l'être humain, quand il prend la matière, même les choses, jusqu'à 1000, 2000, 3000, 10 000 degrés, tu ne fais que la transformer d'une matière à un gaz, à un liquide, mais tu ne peux pas l'anéantir, comme tu ne peux pas ramener une chose du néant, tu ne fais que transformer la chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a responsabilisés, il nous a créé dans cet univers toute chose, c'est lui le seul créateur, l'homme ne peut créer quoi que ce soit. Ou bien, le Jabriya, ceux qui disent que de toutes les façons, on n'a aucune responsabilité dans nos actes, Allah Azza wa Jal nous oblige à faire ce qu'il veut, de toutes les façons, nous ne sommes que comme une feuille au milieu d'un vent, elle va avec le vent ou le vent souffle, et ça c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un aql, nous a donné un intellect, une responsabilité, nous a ordonné de faire des choses, il nous a interdit de faire des choses, et sa sagesse, sa science, sa hikmah veut que nous croyons qu'Allah Azza wa Jal il est juste et qu'il nous a donné, il nous a responsabilité, il nous a facilité les deux chemins, soit le chemin du bien, soit ou le chemin du mal, et c'est à la personne, chaque personne, elle n'est responsable que de ce qu'elle fait. Elle est responsable devant Allah Azza wa Jal et devant les humains dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà de ses actes. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Il n'y a aucune personne qui peut prendre responsabilité de ce qu'une autre personne fait. ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَهُ اللَّهُ وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا. Celui qui s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala par sa non-reconnaissance du qadr, que Allah Azza wa Jal ne connaît pas, ne sait pas, n'a pas déterminé les choses à l'avance, celui-là c'est un personnage qui a un cœur malade. Lui, il fait allusion aux Mu'tazilites et aux autres qui ont un cœur malade dans la compréhension du qadr. Laqad iltamasa biwahm, par son doute qu'il va toucher à un secret caché qu'Allah Azza wa Jal a créé, à savoir ce qadr. Seul Allah Azza wa Jal sait et connaît la vérité du qadr. À partir de là, nous devons croire à ce qadr et faire confiance à Allah Azza wa Jal qu'il est juste. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, il a adoqué le qadar, fa'amsikou, quand il s'agit du qadar, contenez-vous, ne détaillez pas. Nous, si on détaille aujourd'hui cela, c'est pour refuter, c'est pour expliquer, c'est pour amener la bonne croyance aux musulmans, comme nous l'a incité Sayyidina Rasulullah, Nabi Asaf Salam au milieu des Sahaba, sa présence suffit. Mais une fois que les sectes et les groupes égarés et les philosophies sont apparus, les musulmans se sont vus dans l'obligation d'expliquer, comme l'a fait l'imam Ahmad, comme l'a fait l'imam Malik, comme l'a fait l'imam Suyuti, comme l'a fait l'imam Al-Bajrami, comme l'a fait l'imam Ar-Ramli, comme l'a fait l'imam Al-Qurtubi, ou l'imam Al-Juwayni, et la réalité. Et ma qala shaykh wa rahmallah, wa aada bima qala fihi affakan athima, cette personne ne prendra que des péchés et sera récompensée de ce qu'elle a fait, de sa non-reconnaissance du qadar d'Allah Azza wa Jalla. Et ma qala shaykh wa rahmallah, wa l'arshu, wa l'kursiyu haqqun. Et le trône, moi j'aime pas la traduction du mot arche par le trône. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cheikh parle, bon, bien sûr pour les francophones, afin de rapprocher un petit peu la compréhension, on dit l'arche, c'est le trône, mais en vérité, parce que le mot trône en français, il n'a qu'un seul sens. Par contre, en arabe, il a plusieurs sens. Il y a le sens linguistique, bien sûr, qui veut dire un lit, ou bien un siège, le siège du roi, etc. Terminologique. Il ne veut pas du tout dire ça dans la théologie de la croyance musulmane. L'arche, l'arche al-Rahman, l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est ni un siège pour lui, ni une chaise. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de chaise, hein, il ne s'assoit pas, comme le croient quelques-uns, que, comme si Allah Azza wa Jalla le ressemblait à un grand roi qui s'assoit comme ça pour gouverner. C'est de n'importe quoi ça. Faire très attention. Donc c'est l'arche qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas Allah qui a besoin du Arsh, comme va le préciser l'imam Tahawi rahmallahu ta'ala. Et vous allez remarquer que beaucoup de gens aujourd'hui donnent une mauvaise compréhension, une mauvaise croyance sur la question du Arsh et l'explication, l'exégèse du célèbre verset Ar-Rahman ou Ar-Rahman istawa. Et on essaie de propager aussi une parole de l'imam Malik que l'imam Malik n'a pas dit, Al-Istiwa ou Ma'loum ou Al-Kayfu Majhoul, c'est-à-dire son istiwa. Ils ont traduit par l'élévation, que je ne suis pas du tout d'accord. Le mot istawa, c'est un mot spécifique à la langue arabe, il faut le laisser comme tel. Il n'a pas de traduction. Je préfère qu'il reste ainsi. Istawa, le mot istawa en langue arabe, il a plusieurs sens. Il a le sens de s'asseoir, il a le sens de domination, il a le sens de se diriger, il a le sens de se redresser. On ne peut pas dire d'Allah s'asseoir, ni se redresser, ni se diriger. Par contre, on a le droit de dire dominer. Donc l'interprète c'est ambigu, ils ont des conditions. Les savants de la théologie ont dit qu'il faut deux conditions pour accepter une interprétation, ou que le ta'wil soit reconnu dans la langue arabe. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il se contredit avec la croyance musulmane. Comme l'a dit Sayyidina Abu Abbas, et tous les savants des tafsirs ont rapporté cette parole de Sayyidina Abu Abbas, le célèbre sahabi, l'imam des Mufassirin. إذا أشكل عليكم شيء في القرآن فانظره في الشعر فإنه الديوان العرب. Si quelque chose vous semble ambigu, vous n'arrivez pas à le comprendre dans le Coran, cherchez son sens dans la langue arabe, car c'est le diwan, c'est le grand livre, c'est le diwan des Arabes. Pourquoi? Parce que le Coran Karim a été révélé à Sidna Rasulullah par une langue, par des paroles que eux comprennent. Donc les Arabes de l'époque du professeur Hassan, les Sahaba, ils ont bien compris ce que veut, même les Kufa, ils ont bien compris ce que Allah Azza wa Jalla veut dire par Ar-Rahman, etc. Il n'y a aucun Sahabi, il n'y a aucun Tabi'in qui ont compris qu'Allah Azza wa Jalla est sur son siège, sur un siège ou sur l'arche, d'une façon littérale. Tous, ils ont compris qu'il s'agit d'un sens métaphorique. On dit le roi est au-dessus de son wazir, c'est pas qu'il l'a mis sous ses pieds, il est monté sur lui, mais qu'il est au-dessus de lui par sa valeur. Et on rapporte même une poésie en langue arabe, qu'il istawa bishrun ala al-iraq min ghayr sayfin aw damin mihraq, c'est bishr, istawa, c'est-à-dire il a dominé l'Irak, il ne peut pas s'asseoir sur l'Irak quand même. Donc croire que Allah Azza wa Jalla s'assoit où il est sur le l'arche d'une façon littérale, c'est une grave erreur. Je ne donne qu'un simple argument, j'invite nos frères salafi à réfléchir un petit peu, d'être honnête. Vraiment, je ne vous demande qu'une seule chose, l'honnêteté et la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Référez-vous dans les explications des versets aux grands savants du tafsir. Je défie quiconque de me ramener une autre explication que celle donnée par l'imam Al-Qurtubi, que celle donnée par l'imam Ibn Kathir, que celle donnée par l'imam Al-Fa'alibi, que celle donnée par l'imam Samarqandi, que ça donnait par tous les grands savants du tafsir. Tous, ils sont unanimes sur ces questions des versets ambigus, qu'il faut les prendre dans leur sens métaphorique. Bien sûr, la position des salafs les trois premiers siècles, c'est de croire en ces versets-là, et que la métaphore, elle est dans un sens général, puisque eux, ils n'ont pas besoin de l'explication détaillée, que dire la main d'Allah est au-dessus de leur main, c'est-à-dire la puissance d'Allah est au-dessus de leur puissance, ou le tosna'a ala aini, c'est-à-dire fabrique, c'est-à-dire l'Azaj dit à Nour, alayhi salam, fabrique l'arche sous mon œil, c'est-à-dire sous ma protection, sous, c'est-à-dire sous mon œil, c'est-à-dire ma protection. Mais Sayyiduna Nuh alayhi salam a fabriqué l'ange sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Et tous les versets ambigus, nos savants ont compris que ces versets-là, comme a dit Sahib Juhara, wa kullu nassin awham at-tashbiha awwinu aw fawwid ram tamziha. La position des salafs, c'est de lire ces versets-là et de ne pas rentrer dans leur interprétation, puisqu'ils ont la foi qu'il faut, ils ont la compréhension de la langue arabe qu'il faut, ils sont proches de l'époque du prophète, donc ils n'ont pas un problème d'anthropomorphisme ou de même interprétation. Par contre, tous ceux qui sont venus après le 3e siècle, ils sont confrontés au secte, la philosophie elle est rentrée, la foi elle a baissé, la langue arabe elle n'est plus là, on est dans l'obligation, comme dit Cheikh Al-Bouti Rahmallah, on est dans l'obligation de donner une interprétation détaillée à ces versets-là pour protéger la foi des gens. Sinon, le vrai sens de ces versets-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Alors, pour ceux qui essayent de propager la parole soi-disant, la parole soi-disant de l'imam Malik, ce n'est pas une parole de l'imam Malik, je vais vous donner la preuve que nos frères salafis, ils passent leur temps à parler, voilà, on a une preuve que Ar-Rahman Ar-Shistawa, Imam Malik, il a dit Istiwa Ma'loum, c'est-à-dire le fait que c'est établi, c'est connu. Istiwa Ma'loum, le kaifu majhoul, et le comment est ignoré. C'est-à-dire juste, Allah Azza wa Jal, il a un comment, juste on ne le connaît pas. Wa su'alu anhu bid'ah, poser une question pareille, on ne connaît pas, c'est-à-dire. C'est-à-dire que ils veulent nous faire croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un comment. Juste seulement, on ne connaît pas ce comment-là. Juste Allah subhanahu wa ta'ala, il a un comment. Juste ce comment-là, on ne le connaît pas. Le problème, c'est que depuis, je dirais, trentaine d'années ou plus, que nos chouyouks, nos ulama, je parle en connaissance de cause, que nous avons eu des débats, des discussions avec les grands chouyouks du courant salafi. On les a défiés sur cette question de la parole de l'imam Malik. Quand ils disent, l'imam Malik a dit l'istiwa au ma'loum ou le kayf au majhoul, de nous ramener, ne serait-ce une chaîne de transmission faible, même faible, ils sont incapables de nous ramener une chaîne de transmission jusqu'à l'imam Malik qui dit cette parole. On ne leur a pas demandé de nous ramener une chaîne de transmission de cette parole authentique. Nous ramenez-nous une chaîne faible, ça n'existe pas. Par contre, je vais vous dire les chaînes de transmission que tous les ulama ont rapportées et qui contredisent de fond en comble cette parole qu'on essaye de coller à l'imam Malik. Il y a plusieurs chaînes de transmission qui nous rapporte une autre version, c'est pas celle qui est propagée par nos frères salafis, qu'Allah leur pardonne. Il y a la version, la première, qu'on nous rapporte de l'imam Malik, celle qui est rapportée par l'imam, la version de l'imam Ja'far ibn Abdillah. Elle est rapportée par l'imam Abu Nu'aym dans son ouvrage Hilyat al-Awliya, tome 6, page 326-325. Alors je passe la chaîne de transmission. Je vais dire en arabe, inshallah, ensuite je vais commenter le texte en français. Haddathana Muhammad ibn Ali ibn Muslim al-Uqaybi, Haddathana Tari ibn Umayyah al-Ghalibi, Haddathana Salman ibn Shabib, Haddathana Mahdi ibn Ja'far, Haddathana Ja'far ibn Abdillah, qala kunna 'inda Malik, on était chez l'imam Malik. Faja'ahu rajul, un homme est venu le voir. Faqala ya Aba Abdillah, Ar-Rahman, ou Abu Abdillah. On parle de l'imam Malik. Ar-Rahman, Istawa. Le Seigneur s'est établi sur son trône. Istawa Kaif. Comment il s'est établi? Fama wajada malikum min shay'in. L'imam Malik n'a jamais trouvé une chose. Ma wajada min mas'alatih. Donc l'imam Malik, il était fâché. Donc toutes les versions qu'on a, on sait tous que l'imam Malik était fâché. Et on sait tous, même les frères salafis sont d'accord sur cette question-là, que l'imam Malik était fâché et qu'il a dit à la personne, tu es un homme de secte, de bid'a, t'as pas le droit de poser ce genre de questions, sortez-le, je veux pas le voir. La question qui est posée, puisque vous propagez et vous dites que l'imam Malik a dit, c'est une question. Cette question, c'est une question de bid'a. Alors pourquoi vous passez votre temps à poser cette question aux gens? Pourquoi vous passez votre temps à parler de cela, c'est les gens? Qu'Allah Azzawajal, il est sur le trône. Qu'Allah Azzawajal, il est dans le ciel. Comment vous pouvez croire qu'Allah Azzawajal, il est dans le ciel, même si vous dites qu'il est au-dessus du ciel, dans le sens littéral? Il était où avant de créer le ciel? Croyez-vous vraiment qu'Allah change? Dans le Bukhari, il y a un hadith. Quand Allah, il était, il n'y avait rien avec lui. Il était où? Il n'était pas au-dessus du ciel, ou s'il l'a créé, il est devenu au-dessus? Subhanallah. Allah ne change pas. Il est comme il était avant de créer le ciel et après avoir créé le ciel, une fois qu'il va anéantir le ciel. Donc, revenons à la raison. Allah Azza wa Jal n'a rien à voir avec sa créature. Au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, ça, c'est pour les créatures, pas le créateur. Si on lit le Coran Karim au-dessus, c'est que Allah Azza wa Jal est au-dessus de nous par sa domination, par sa science, par sa valeur et par son royaume dominant. On dit le sultan est au-dessus de ses subordonnés et de par sa puissance. Il n'a fait Aoun Ala fil Arb. Aoun Ala, c'est-à-dire il n'est pas monté dans un gratte-ciel, mais Fir'aoun, il y avait des gens qui habitaient des montagnes, ils étaient au-dessus de lui, mais il est au-dessus des juifs et ceux qui les gouvernent par sa puissance, par sa mainmise sur ces créatures. Donc dans cette version de l'imam Malik, la première rapportée par l'imam Ja'far ibn Abdillah, je vous ai cité la chaîne de transmission. L'imam Malik nazara ila al-ard, l'imam Malik regardait par terre, waja'ala yankutu bi'udni fi yadihi, il a pris un bâton, il touchait la terre avec le bâton, hatta ala al-rahda, jusqu'à ce qu'il a commencé à avoir de la sueur, tellement cette question elle était, c'est quelque chose de très grave par rapport à quelqu'un comme l'imam Malik qui fait partie du salaf. Thumma rafa'a ra'sahu wa rama bi'udni, ensuite il a levé la tête et il a jeté le bâton. Ça c'est la version de l'imam Ja'far ibn Abdillah. Ensuite il a dit al-kayfu minhu ghayru ma'qul. Le comment pour Allah Azza wa Jal est inconcevable, est inacceptable, غير معقول, il n'est pas accepté par l'aql. Wal istiwa minhu غير majhoul. Et l'élévation istiwa minhu غير majhoul, il n'est pas ignoré. Le mot istiwa dans la langue arabe, il n'est pas ignoré, on le connaît. C'est-à-dire il a le sens de istiwa, veut dire dominer, ça ne veut pas dire s'asseoir. Wal iman bihi wajib, et croire à ce verset est une obligation. Et poser une telle question, c'est bid'a. Alors, je pose la question. Pourquoi on passe notre temps à poser ce genre de questions? Puisque l'imam Malik a dit, poser ce genre de questions, c'est bid'a. Alors, normalement, nous devons lire ces versets-là, comme a dit Soufyan ibn Uyayna, rahmallah. Tafsiruha, qira'atuha, wa sukutu alayha. C'est de lire le verset, et son interprétation, c'est de croire au verset et passer. Mais comme aujourd'hui, la philosophie a touché les corps des gens. Les entreprises sont partout. Les sectes sont partout. Donc, les ulamas ont vu qu'il est obligatoire de donner une interprétation détaillée afin de préserver la croyance des gens. Vous remarquez que dans cette première version, il n'y a pas l'istiwa ou ma'loum. L'élévation est connue. Il y a le comment est inconcevable et l'istiwa, minhu ghayr majhoul. Il n'est pas ignoré. Elle est où, l'istiwa ou ma'loum qui est connue? Deuxième version, celle rapportée par Imam Abdullah ibn Wahb. Elle est rapportée par Imam al-Bayhaqi, c'est la version la plus authentique. Je dis bien la plus authentique. Dans cette chaîne de transmission, elle a été authentifiée par trois grands huffaz de la Ummah, à savoir l'Imam al-Bayhaqi, l'Imam al-Dhahabi, l'Imam ibn Hajar al-Asqalani. Pour l'Imam al-Bayhaqi, il l'a authentifié dans son ouvrage l'Asma wa Sifat, tome 2, page 304. Pour al-Dhahabi, vous allez le trouver dans Mukhtasar al-Ulu, page 141. Pour l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, vous allez le trouver dans son commentaire de Fath al-Bari, tome 13, page 406-407. Cette version, elle dit la chose suivante. Elle est contrairement à celle rapportée par les gens qui propagent le courant salafi en disant que l'imam Malik a dit l'istiwa ou ma'loum ou le kayf ou majhoul. Vous allez voir, l'imam Bilbehaq dit, « Akhbarana Abu Abdillah al-Hafn, Abu Abdel al-Haq nous dit, Ahmed ibn Muhammad ibn Ismail ibn Mahran nous a dit que il dit que son père, Haddathana Abu Rabi' ibn Abi Rashid ibn Sa'd, qala. Il dit, Sami'tu Abdullah ibn Wahb. J'ai entendu Abdullah ibn Wahb, qui est un des élèves de l'imam Malik, yaqoul. Il dit, Kunna inda Malik. Nous étions chez l'imam Malik. Fadakhala rajulan faqal. Un homme est rentré, il a dit, Ya Abu Abdillah ar-Rahman ash-Istawa. Ou Abu Abdullah, l'imam Malik, ar-Rahman ash-Istawa. Allah s'est établi sur le trône. Istawa, kayfa istawa'uh? Il s'est établi, comment s'est établi? Qala, il a dit, Fa'atraqa Malikun. L'imam Malik a baissé la tête. Wa akhadathu ar-Rahda. Rahda, il a commencé à avoir la sueur, il s'est chauffé. Thumma rafa'a ra'sah. Ensuite, il a levé la tête. Faqal. Ensuite, il a dit, Ar-Rahmanu ala arshi istawa. Ar-Rahman s'est établi sur le trône. Kama wasafa nafsah. Comme il l'a dit, comme il s'est qualifié. Wa la yuqalu kayf. Et on ne dit pas comment. Regardez, et on ne dit pas comment. Le comment, on ne le dit pas. Nos frères, ils disent quoi? Ils disent, l'istiwa'u ma'loum, ou al-kayfu majhoul. Juste le comment, on ne le connaît pas, mais il existe. Mais voilà Imam Malik qui vous dit, il n'y a pas de comment. Et vous dites, il y a un comment, juste on ne le connaît pas. Il n'y a pas de comment. Le comment, ça s'applique sur la créature. Comment tu manges, comment tu t'assois, comment tu bouges, comment tu ris, comment tu descends, ça sur la créature. Mais le comment, ou al-kayfu anhu marfou', le comment par rapport à Allah, ça n'existe pas. C'est un créateur et pas une créature. Ensuite, Imam Malik a dit, wa la yuqalu kayf. Wa kayfu anhu marfou'. Le kayf, par rapport à Allah Azza wa Jal, il faut le lever. Il ne faut pas l'attribuer à Allah. Anhu marfou'. Il ne faut jamais l'attribuer à Allah. Wa anta rajul sou'. Et tu es un personnage de mal. Sahibu bid'a. Tu es quelqu'un qui fait la bid'a. Akhrijou. Sortez-le. Qala. Imam ibn Wahb a dit, fa ukhrija. Et on l'a sorti. Donc vous remarquez cette chaîne de transmission la plus authentique. Il n'y a pas l'istiwa ou ma'loum. L'istiwa est connu. Et le comment est ignoré, on ne le connaît pas. Non, il y a l'istiwa, istiwa kama wasafa nafsah, comme il a voulu. Allah Azza wa Jal. Wa la yuqalu kayf, on ne dit pas comment. Wa kayfu an marfu', le kayf, il faut l'élever, il ne faut pas l'attribuer à Allah. Cette seule chaîne concernant cette parole de l'imam Malik, c'est la seule parmi toutes les chaînes qui a été authentifiée par l'imam al-Bayhaqi, l'imam ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Dhahabi. L'autre version, je passe vite, c'est la version qui est rapportée par la troisième version, elle est rapportée par Yahya ibn Yahya Tamimi, l'imam Bayhaqi aussi la rapporte dans Asma'u Sifat, mais elle n'est pas forte aussi, il n'y a pas l'istiwa ou ma'loum. Je passe la chaîne de transmission, il y a une chaîne de transmission, mais elle est faible, donc toutes les chaînes ne rapporte pas l'istiwa ou ma'loum ou kayf ou majhoul. L'établissement connu et le comment est ignoré. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune chaîne. Dans cette version, il est dit l'istiwa ou ghayru majhoul. Le istiwa n'est pas ignoré. Ou al kayf ou ghayru ma'qoul. Et le comment est inconcevable, est irrecevable. Ou al imanu bihi wajib. Il faut croire à cela. Ou al su'alu anu bid'a. Il a posé la question de bid'a. Wa ma araka illa mubtadi'a. Je te vois que homme bid'a. Il a ordonné de le faire sortir. Il n'y a pas de l'istiwa ou ma'loum qui écoute. La quatrième version, c'est celle rapportée par Ja'far ibn Maimoun, rapportée par Abu Ismail Saboni, sur la chaîne de transmission, jusqu'à ce que l'imam Malik dit l'istiwa ou ghayru majhoul, l'istiwa n'est pas ignoré, ou al-kayf ou ghayru ma'koul, et le comment est inconcevable, est inacceptable, ou l'imam bihi wajib, etc. Donc, aussi, c'est une chaîne faible, mais il n'y a pas l'istiwa ou ma'loum. La cinquième version, c'est la version de celle rapportée par Soufyan ibn Uyayna. Aussi, l'istiwa ou minhu ma'loum, ou l'kayfu minhu ghayru ma'koul, toutes ces chaînes, elle est rapportée, celle-là par le Qadi Ayyad, donc Tarkib Madar, tome 2, page 39, et le Dahabi aussi, Sir Alam Nubala, tome 8, page 106-107. La sixième version, celle de Muhammad ibn Nu'man ibn Abdissalam al-Tamimi, aussi, l'istiwa ou minhu ghayru majhoul, ou l'kayfu minhu ghayru ma'koul, l'istiwa n'est pas ignoré et le comment est inconcevable, etc. La septième version, celle rapportée par l'élève de l'imam Malik, Abdullah ibn Nafi', aussi, elle est rapportée par l'imam ibn Abdul Barr dans son ouvrage Tamhid, page 7, tome 7, page 138. Aussi, il est dit istiwa uhu ma'koul, son istiwa il est raisonnable, wa kayfiyatuhu majhoula, et son comment il est ignoré. Donc, dans cette seule version, on a le même sens de l'istiwa ou ma'loum ou l'kayfu majhoul, mais on n'a pas l'istiwa ou ma'loum ou l'kayfu majhoul, comme il est dit, mais c'est une chaîne qui est faible, qui ne tient pas la route, celle de rapportée par l'imam ibn Abdul Barr. Il nous rapporte aussi une huitième, celle de Ayyub ibn Salah al-Makhzoumi, dans le 351, où Imam Malik répond en disant سألت عن الرحمن استوى كيف استوى قال الإمام الكندي سألت عن غير مجهول. Tu as posé une question sur une chose qui n'est pas qui n'est pas ignorée. وتكلمت في غير معقول. Tu as parlé d'une chose irraisonnable, inacceptable. إنك امرؤ سوء. فأخرجه. Tu es un homme de problème, sortez-le. Ensuite, la deuxième version, celle rapportée par Sahnoun, selon un des élèves d'Imam Malik, rapporté par Ibn Rushd dans son ouvrage Al-Bayn al-Tahsil, tome 16, page 367-368. Aussi, Imam Malik a répondu Al-Rahman al-Istawa, Kaifa kan istawa fataqta al-Imam Malik a baissé la tête, suivre. Qal, sa'alta an ghayr majhoul. Tu as posé une question sur une chose qu'on n'ignore pas. Wa takallamta fi ghayr ma'qul. Tu as parlé des choses et ghayr ma'qul et inconcevable. Je te vois qu'un nombre de problèmes, etc. Alors, vous remarquez, dans toutes ces riwayats, toutes ces chaînes de transmission, ça n'existe pas. Al-istiwa ou ma'loum ou al-kayf ou al-majhoul. Ça n'existe pas. Ce qui existe, la chaîne, la riwaya la plus authentique, la plus authentifiée, c'est celle rapportée par Imam Ibn Wahb. La riwaya est rapportée par Ibn Wahb, un disciple de l'imam Malik, cité par Al-Bayhaqi dans son célèbre ouvrage Al-Asma' wa Sifat, qui l'a authentifié et cité aussi par Ibn Hajar al-Asqalani, qui l'a authentifié aussi cité aussi par l'imam al-Dhahabi, et tous ces trois grands hufaz l'ont considéré comme c'est la seule version de ce qui a été rapporté par l'imam Malik, cette version qui est authentique. Les autres versions, elles sont faibles, malgré qu'elles sont faibles, elles ne vont pas dans le sens, il n'y a aucune chaîne de ces chaînes qui dit l'istiwa ou ma'loum, c'est-à-dire ce qu'on propage de l'imam Malik n'existe même pas, c'est-à-dire il n'y a même pas une chaîne, ne serait-ce faible. Et j'attends, si quelqu'un peut me ramener une chaîne faible de cette part de l'imam Malik, marhaban, on ne dit pas authentique, même faible, ramenez-nous. Bien que si vous la ramenez, nous avons cette version de Ibn Wahb qui dit Ar-Rahman est établi sur le trône. Comme il s'est qualifié, on ne dit pas comment, et on ne dit pas comment, et le comment ne s'applique pas sur lui. Et le comment ne s'applique pas sur lui. C'est pas qu'il a un comment qu'on l'ignore, mais il n'a pas de comment. Ça, c'est la version la plus authentique, la plus retenue de toutes les versions rapportées par l'imam. Je ferme la parenthèse de cette question. Tu vois, parce que, de toutes les façons, la chose, elle est simple. Il suffit d'aller ouvrir le Coran Karim et de voir ce que les savants de des exégèses on dit sur cette question de l'istiwa, et ne pas chercher la parole d'Allah Azzawajal chez telle ou telle personne. Si vous voulez la compréhension du hadith, référez-vous aux grands savants du hadith, Imam Nawawi, Imam Al-Hajar, Imam Bayhaqi, Ibn Abdelbar, ce sont ces grands, Imam Tirmidhi. Pourquoi vous référez à des gens qui ne rapportent même pas un seul hadith par chaîne de transmission jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donc il faut être sérieux un petit peu. On prend le hadith des gens qui n'ont même pas étudié ce qui nécessite les chaînes de transmission. On est vraiment dans un monde qui marche à l'envers. On prétend avoir des ulama qui sont spécialistes en sciences du hadith, mais qui n'ont pas étudié le hadith chez des chouyours. Où est-ce que tu as étudié le hadith? J'ai étudié le hadith dans des ouvrages, j'ai étudié le hadith dans un site internet, j'ai étudié le hadith dans un livre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Man talab al-ilma min al-kutubi, man talab al-nahwa min al-kutubi, lahan al-kalam. Celui qui apprend la grammaire des livres, il va parler en cassant la langue arabe. وَمَنْ طَلَبَ الْفِقْهَ مِنَ الْكُتُبِ غَيَّرَ الْأَحْكَامِ. Et celui qui apprend le fiqh des livres, il changera les ahkams. وَمَنْ طَلَبَ الطِّبَّ مِنَ الْكُتُبِ قَتَلَ الْأَنَامِ. Et celui qui apprend la médecine des livres, il tuera sûrement les humains. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والعرش والكرسي. Le kursi, bien sûr, c'est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé le kursi, est en dessous du arche, au-dessus du septième ciel, mais je ne dirai jamais le piédestal ou le je sais pas quoi, pied marché, machin, comment ils traduisent, c'est irresponsable, inacceptable. Il faut laisser le kursi, le kursi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le mot kursi, on utilise le kursi, c'est une grande créature. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal a dit Ar-Rahman Arsh Istawa? Si Allah Azza wa Jal a parlé de sa domination du arche, les ulama ils ont dit al-arche c'est une grande, comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a expliqué dans plusieurs hadiths, c'est une grande coupole géante la plus grande créature qu'Allah Azzawajal a créée. Tout cet univers par rapport au Arsh, c'est comme si l'univers est une poussière. Alors, raisonnement par récurrence, si Allah Azzawajal parle de sa domination de la plus immense créature, alors il va de soi qu'il soit dominant, qu'il domine toute chose qui est considérée comme une poussière par rapport à cette grande créature. Rajoutons à cela, on sait très bien qu'Allah Azzawajal a parlé du Arsh, que l'Arsh, il est pris par quatre anges dans cette vie d'ici-bas. Dans le monde de l'au-delà, il y a huit anges qui vont prendre le Arsh, c'est-à-dire l'Akhira, au jugement dernier, huit anges qui vont prendre le trône. Alors, si on prend le sens littéral, c'est comme si ces huit anges, ils prendront l'Arsh et Allah Azzawajal, il est au-dessus. C'est comme si c'est les huit anges qui vont prendre Allah Azzawajal. Soyons sérieux. Allah Azzawajal, tout l'univers, tous les anges, tous les humains, toute la créature, elle est sous la domination, elle est sous la volonté et sous la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les anges, et c'est l'arche, et c'est les cieux, et c'est la terre, et tout l'univers qui a besoin d'Allah, et ce n'est pas Allah qui a besoin des anges, ou bien il a besoin de l'arche. Sallallahu alayhi wa sallam. Shaykh wa huwa mustaghnin 'an al-'arsh. Allah mustaghnin 'an al-'arsh, il n'a pas besoin du arche. وما دونه محيط بكل شيء. Allah n'a besoin ni du arche ni de ce qui est en dessous du arche, c'est-à-dire qui est moins de valeur. Le cheikh fait allusion que l'arche est la plus grande créature quand il a dit وما دونه, toutes les créatures qui sont en dessous, c'est-à-dire ils sont moins puissantes, moins fortes que l'arche. بكل شيء وفوقه, tout ce qui est, c'est-à-dire au-dessus du arche ou là en dessous, à gauche, à droite, toutes choses. وقد اعجز عن الاحاطه خلقه صديق الله عز وجل a dominé toute chose et c'est Allah le dominant, c'est lui qui sait le détail de toute chose, et les humains ne connaissent Allah عز وجل que ce que Allah a voulu leur faire savoir à travers ses messagers en parlant de son essence. Laisa kamithlihi shay, Allah عز وجل rien ne lui semblable, ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Et que les humains ne savent que ce que Allah Azza wa Jalla leur a révélé à travers ses prophètes concernant ses attributs, concernant ses noms. Thumma qala al-shaykh wa rahmahullah ta'ala wa naqulu inna Allah attakhadha Ibrahim khalila. Allah, Sayyiduna Ibrahim khalil, on les introduit comme amis. C'est pas amis, c'est intime, c'est-à-dire un bien-aimé, un pieux rapproché d'Allah Azza wa Jal. Ou le khulla, khalil, le khulla, c'est un maqam de la mahabba. C'est l'imam Ibn al-Qayyim, rahmallah, dans son ouvrage Majal al-Salikin. Moi j'invite un peu les frères salafis de lire un petit peu les ouvrages d'Ibn al-Qayyim, tels que Madhhab al-Salikin ou bien tels que l'ouvrage Ruh, où il parle du soufisme, il détaille ces questions d'amour, les degrés de l'amour. Le khulla, c'est-à-dire, et Allah Azza wa Jal, il a un grand amour, il aime Sayyiduna Ibrahim Khalil, il l'a rapproché, il fait partie des pieux, des salihins, des grands prophètes qu'Allah Azza wa Jal aime. Wa kallama Allah Musa taklima. Et Allah Azza wa Jal a parlé avec sa parole à Sayyiduna Musa, imanan, il faut croire à cela, wa tasdiqan, il faut reconnaître cela, wa tasliman, il faut remettre Allah Azza wa Jal en parlant de cette question qu'Allah Azza wa Jal a parlé à Sayyidina Moussa. Ensuite, quand on dit Allah Azza wa Jal a parlé à Sayyidina Moussa, il ne faut pas croire qu'il lui a parlé comme parlent les humains entre eux, mais c'est que Allah Azza wa Jal a levé le voile à Sayyidina Moussa pour qu'il puisse entendre sa parole éternelle qui est ni voix, ni un début, ni une lettre, ni à la une fin. Veut faire entendre sa parole éternelle à un de ses bien-aimés et lui enlève le voile. Nous, on est voilés, on est privés d'entendre la parole Azza wa Jal. S'il veut qu'on le voit, il nous le permettra en levant le voile. Et c'est ce qui va se passer, inshallah ta'ala, dans le paradis, quand Allah Azza wa Jalla voudra, on pourra le voir sans qu'il soit dans un endroit. Car l'endroit est une créature, et Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de la créature. Allah Azza wa Jalla va lever le voile quand il voudra. Et quand je dis le voile, c'est-à-dire l'empêchement, qui c'est pas le voile, c'est pas le rideau hein, matériel. Et cet empêchement, Allah Azza wa Jalla nous empêche de le voir, nous empêche d'entendre sa parole, et quand il voudra, il nous permettra d'entendre sa parole ou de le voir. Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu Sidna Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas et a privé Sidna Moussa de le voir, mais il l'a récompensé par entendre sa parole. Je vais me limiter à cela, inshallah ta'ala, et je vous laisse décrire, on va vous enlever les points rouges, et dans 10 minutes peut-être, ou un quart d'heure, je laisserai, inshallah, s'il y a des questions. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. S'il y a des gens qui veulent polémiquer, il y a des gens qui veulent débattre, ils sont les bienvenus sur Aslama. S'ils respectent la charte, ils viennent, ils ont à poser leurs questions, on peut leur répondre, il n'y a aucun problème. Mais les polémiqueurs, ce n'est pas aujourd'hui qu'on puisse leur répondre. Aujourd'hui, c'est le cours, il est réservé à ceux qui veulent entendre notre parole. On n'oblige personne à partager ce qu'on dit, comme on n'accepte pas que les autres nous obligent comme a décidé Al-Alaoui Malik, on n'oblige personne à entendre notre parole, comme on ne veut pas que les autres nous obligent à suivre la parole. Donc c'est un cours qui est réservé à ceux qui veulent l'écouter, d'un frère qui veut partager avec vous la science qu'il a appris de ses chouyours, dont il sent la responsabilité de transmettre ce khayr, qui est malheureusement aujourd'hui mal compris, mal expliqué, surtout Imam Tahawi rahmallah dans son ouvrage, oui, le Mushkil Hadith dans son ouvrage, il a un grand ouvrage où il interprète les hadiths, va dire ambigu. On trouve que sa parole, elle est bien explicite quand il s'agit des hadiths, des textes métaphoriques, des ambigu qu'il faut prendre dans le texte, dans le sens métaphorique, et que malheureusement on a trop mal expliqué sa parole et la parole de beaucoup de savants. Aujourd'hui, l'école sunnite, elle est marginalisée par beaucoup de gens. J'espère qu'ils se réveilleront. Il faut se réveiller, Inch'Allah, Inch'Allah, et qu'ils ouvriront les yeux et le cœur quand ils vont se référer aux grandes références du tafsir, aux grandes références du hadith. L'imam al-Nawawi, c'est pas n'importe qui. L'imam al-Qadaiyat, c'est pas n'importe qui. L'imam al-Ghazali, l'islam, c'est pas n'importe qui. L'imam Suyuti, c'est pas n'importe qui. L'imam Ibn Hajar, c'est pas n'importe qui. L'imam Subki, c'est pas n'importe qui. Tous ces grands monuments de l'islam, ils sont dans l'égarement, tous ces gens de bid'a, tous ces déjà-charites qu'il faut accepter quand ils parlent du robot, quand ils parlent de Najasa, et on ne prend pas leurs paroles quand ils parlent des attributs d'Allah, soyons sérieux. Imam al-Nawawi ibn Hajar al-Asqalani, oh, ils sont bien, hein, c'est des gens de Ahl al-Sunnah quand il s'agit de parler de hadith, sahih, da'if, etc. Mais quand il s'agit d'attributs d'Allah, ils ne font pas partie d'Ahl al-Sunnah. Franchement, une umma qui, dans les grands savants, les grands monuments, sont à côté de la plaque. En ce qui concerne la croyance, c'est une umma qui est morte à l'avance. Je ne crois pas que notre umma elle est morte. Notre umma elle est forte. Elle était forte par sa sagesse, sa science, pour savoir ces grands ulama depuis 15 siècles, historiquement et géographiquement. Cette umma ne se situe pas qu'en Arabie Saoudite. Elle se situe du Maroc jusqu'en Inde et du Pakistan, de Turquie jusqu'au fond du Mali. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Je vous permets de poser vos questions et elles sont les bienvenues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr, les questions elles seront écrites, mais pas au micro. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du son? Barakallahu fik. Le thumma, il a plusieurs sens. Ici, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal il a un temps, c'est-à-dire il fait pas un temps après un temps, c'est-à-dire il a thumma istawa ala al'arsh, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que le temps ça ne veut pas dire ensuite, ça n'a pas ce sens-là. Hein? Le thumma veut dire que il a aussi créé, ça n'a pas le sens de ensuite. D'accord. Et c'est connu en langue arabe, vous allez trouver chez tous les exégètes du Coran, ils n'ont pas cette compréhension qui veut dire après. D'accord. Bien que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu, quand il veut une chose, il l'a fait en une fraction de seconde, par exemple. Quand il veut une chose, mais il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Pour une sagesse que lui sait, et les ulama ils ont divergé sur la question du jour, est-ce que ce sont les jours de nos jours à nous ou autre chose, mais juste pour nous apprendre à nous que c'est-à-dire il faut avoir la patience de faire les choses
bien que Allah Azzawajal, il a quand même créé les anges, et il leur a donné des responsabilités de prendre les âmes des gens, bien que Allah Azzawajal, c'est lui qui prend en vérité les âmes, il n'a pas besoin des anges. Donc, pour des sagesses que seul lui sait. Alors, l'autre question, pourquoi il n'y a pas trois sortes de tawhid qui est à l'origine de ce concept, et comment il faut alors aborder le tawhid? Le tawhid, c'est donc le premier qui a parlé de cette question de la répartition de tawhid, c'est Ibn Taymiyyah rahmallahu ta'ala. Il a inventé cette répartition de tawhid qui est, si elle était une façon de compréhension, c'est-à-dire une façon de répartir le tawhid juste pour comprendre, ça aurait été accepté. Mais malheureusement, ce n'est pas une façon de c'est-à-dire d'expliquer, mais c'est une façon de dire si tu, c'est-à-dire il faut séparer complètement tawhid al-rububiyya de tawhid al-uluhiyya de tawhid al-asma wa-sifat. Ce sont trois choses complètement séparées. C'est-à-dire tu peux avoir tawhid al-rububiyya tout en étant mécréant, tu n'as pas tawhid al-uluhiyya. Or, dans la croyance musulmane, tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-rububiyya, c'est une. Les anges, ils demanderont à l'homme quand il est dans la tombe, man rabbouk, qui est ton seigneur, et bien sûr, il dira Rabbi Allah, c'est-à-dire il dira Rabbi ou Allah, c'est-à-dire Rabb ou Ilah, c'est-à-dire il n'y a pas de. Aussi, dans le Coran, on a Arbabun, Amillah, des seigneurs ou Dieu, c'est-à-dire le Coran ne fait pas de distinction entre Rabb et Ilah, Rabb ou Ilah ou Ilah ou Rabb. Donc cette distinction faite par Mutamia, bien sûr, elle est voulue juste pour traiter ceux qui font le tawassul avec les saints, avec les prophètes, avec les awliyas, qui sont des gens qui n'ont pas un des tawhid, soit rububiyya ou bien uluhiyya. Effectivement, ceux qui n'ont pas le tawhid rububiyya ou bien le tawhid uluhiyya, ils sont considérés comme des gens qui sortent de l'islam. C'est malheureux de le dire, mais c'est ça l'idée, c'était c'est-à-dire de traiter une bonne partie des musulmans, c'est-à-dire de les faire sortir de l'islam à partir de cette répartition du tawhid. Donc, vous remarquez que je vous réfère à ce qu'a écrit l'imam Dejoui, vous allez trouver sur Aslama avec tous les détails sur cette question de répartition de tawhid, de toutes les réfutations qu'on a écrites sur cette question-là, bien détaillées, et vous allez trouver plein d'arguments qui remettent en cause cette question-là de répartition de tawhid. Alors, pour ce qui est de l'autre question, quelles preuves s'est-on basées pour affirmer que l'on ignore le sens exact de l'istiwa. Bien que je n'ai pas très bien compris votre question, mais j'essaye de comprendre quelles sont ces preuves, sur quelles preuves si on est basé pour affirmer que l'on ignore le sens exact de l'istiwa. Le vrai sens de ces versets ambigus, il n'y a personne qui va vous donner le vrai sens des versets ambigus. Même tous les experts, tous les grands savants de l'exégèse donnent une possibilité de ce qui du sens de ces versets ambigus, équivoques. Ils ont l'autorisation de donner cela puisque le sens il est rapporté en langue arabe, il se contredit pas avec le Coran Karim. Vous trouverez jamais un savant de l'exégèse qui il va vous dire que c'est cela seulement. Le vrai sens du verset, c'est pas autre chose. Donc, parmi les sens qui sont retenus et qui sont acceptables, c'est le fait qu'Allah Azzawajal, le mot istiwa veut dire domine. Mais on n'a pas le droit de dire Allah Azzawajal istiwa s'assoit ou se dirige ou bien se redresse. S'assoit, ça se dit pas. Bien que j'ai entendu un des chouïoukh salafis dire, il y en a beaucoup qui croient. Alors, d'ailleurs, ils le croient, mais ils le disent pas. Hein. Ils croient que Allah Azzawajal est assis sur le trône et qu'il est installé, s'est établi sur le trône. Et ça, c'est une grave croyance. De dire que Allah Azzawajal s'est établi sur le trône, qu'il est sur le trône. Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'aurais aimé avoir sur quelle preuve s'est-on basé pour affirmer que l'ignore le sens. Ben, c'est celui qui prétend avoir le sens et c'est à lui de ramener des preuves de ce sens-là, c'est pas celui qui remet en cause. Donc, celui qui prétend, nous on dit que le sens de istawa veut dire dominer, puisqu'en langue arabe, le mot istawa veut dire dominer, et ça ne contredit pas la croyance sunnite. Alors celui qui dit istawa veut dire s'asseoir, ou se diriger, ou se redresser, c'est à lui de nous ramener la preuve. Et quand il nous ramène la preuve, on va rigoler, parce que celui qui s'assoit, c'est la créature. Allah Azzawajal n'a pas besoin de s'asseoir, il n'est pas un corps. Ceux qui croient que Allah Azzawajal est un corps, c'est eux qui croient qu'il s'assoit. le arsh, le trône, c'est lui qui a besoin d'Allah. Allah n'a pas besoin de s'asseoir, ni de se coller. Malheureusement, c'est dommage que des gens croient à cette croyance anthropomorphiste aujourd'hui, au moment où le cœur de la croyance sunnite, le tawhid pur, c'est la transcendance. C'est de ne pas attribuer à Allah Azzawajal ces fausses croyances qui diminuent de la valeur du divin. Absolument, Ibn al-Qasim. C'est-à-dire, il faut que les deux conditions dans l'interprétation des versets ambigus, pour avoir une bonne interprétation acceptable, les savants de l'exégèse et ceux du tafsir aussi ont donné cette condition. Il faut premièrement que le sens existe en langue arabe. Quand on dit en langue arabe, c'est-à-dire existe chez c'est-à-dire ça se comprenait ainsi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas la langue arabe d'aujourd'hui qui je ne sais pas si on peut l'appeler langue arabe, hein, celle qui est parlée aujourd'hui par beaucoup de... Quand on lit le journal aujourd'hui en arabe, je ne sais pas si c'est la langue arabe ou je ne sais pas quoi. On trouve des mots espagnols, français, catastrophiques, laisse tomber. Il y a la langue arabe de l'époque du Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien avant, ou bien juste après, les deux premiers siècles, trois. Il faut que le mot, on le comprend, à l'époque, comment il se comprenait. Et il faut avoir une preuve qu'il se comprenait ainsi. Comme a dit Sayyidina Abdullah ibn Abbas, il se comprenait ainsi parce que tel a dit dans telle poésie, ou bien tel bédouin a dit telle chose. Et deuxième chose, il faut que ce sens-là ne se contredit pas avec le Coran al-Karim. Le mot istawa, par exemple, istawa ta'ala al-Judi, veut dire aussi istakarra. On nous dit istawa bima'na ala, c'est-à-dire il s'est élevé, on va dire oui, il s'est élevé, mais Allah est au-dessus du trône, au-dessus. Ça peut avoir deux sens, au-dessus par sa puissance ou au-dessus par son essence. Si on dit au-dessus par son essence, par sa science, oui, mais au-dessus par son essence, non, parce que Allah Azza wa Jal n'est pas un corps pour qu'il soit au-dessus de quelque chose. Allah Azza wa Jal, il est comme il était avant de créer les cieux, la terre et le trône. Et le Bukhari dit, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, un hadith rapporté par le Bukhari, كان الله ولا شيء معه. Allah, il était, il n'y avait aucune créature avec lui, ni les cieux, ni la terre, ni le trône. Comment peut-on concevoir qu'aujourd'hui, qu'après avoir créé le trône, qu'après avoir créé le ciel, Allah est au-dessus du trône par son essence? Ça, c'est inacceptable. Allah est au-dessus de toute chose par sa domination, par sa science. Que cette chose soit créée ou elle n'est pas encore créée. والله تعالى أعلم. Si vous avez d'autres questions, فضلوا بارك الله فيكم. Sinon, inshallah, on va fermer le salon et جزاكم الله خير أخي بن القاسم. Et on se retrouve inshallah dans le forum de le site d'Aslama et essayez d'être actifs بارك الله فيكم. Vous êtes bienvenus sur Aslama. J'attire votre attention sur une chose très importante. On a introduit sur Aslama le fait que personne ne peut répondre aux questions sauf les gens qui sont censés de répondre. Pourquoi nous employons créature et non création pour l'arche? Car cela, on va être vivant. J'ai pas compris la question. Pourquoi en nous employons créature et non création? C'est comme vous voulez, hein, créature, création, la même chose. De toutes les façons, il s'agit d'une créature. Allah Azza wa Jal a créé l'arche. C'est une créature. Il n'y a aucun problème. Allah Azza wa Jal, c'est le créateur. Il a créé une créature. De toutes les façons, on est devant une créature, même si elle est la plus grande des créatures, mais elle n'est rien du tout devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a parlé de sa domination, puisqu'elle est la plus grande créature qu'Allah Azza wa Jal a créée. Donc, par raisonnement par récurrence, si Allah Azza wa Jal parle de sa domination, cette plus grande créature qu'il a créée, qui est portée par des grands anges, dans cette vie d'ici-bas, 4 et le jugement dernier, 8, alors que dire de cet univers qui n'est que poussière par rapport à ce trône? Il n'est rien du tout. Allah Azza wa Jal parle de sa domination de la plus immense créature, il va pas c'est-à-dire, bien que Lazare a parlé de la fourmi, a parlé des petites choses, mais sa domination, il l'a réservée à la plus grande créature qu'il a créée. Wallahu ta'ala a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا أخي محمد, moi j'ai compris votre question. S'il y a plusieurs sens d'un mot, et ces sens-là, je parle bien des versets ambigus, ne se contredit pas avec Amin. Ces sens-là ne se contredit pas avec le Coran al-Karim. Bien sûr, on les prend en considération, on ne supprime pas les autres. Mais qui, nous, quand on dit on prend, on fait, on ceci ou cela? Pas nous, hein, ni moi, ni toi. Hein. Ce sont les savants qui vont. Moi, j'explique seulement comment ils ont fait. C'est pas moi qui prends c'est pas moi qui a dit istawa veut dire istawa la dominer. Ce sont les grands savants, c'est l'imam Tabari, c'est l'imam Al-Qurtubi, c'est l'imam Ibn Arabi, c'est l'imam Ibn Kathir, ce sont les grands savants de la Ummah qui ont fait l'exégèse, c'est les spécialistes de la croyance. Nous, juste, on explique comment ils ont fait et pourquoi. C'est pas à nous de voir les mots qui conviennent, qui conviennent pas. On n'est rien du tout, hein, devant ces sommités-là. Me font, Inch'Allah ta'ala. Donc, il faut comprendre que ce sont les savants qui font cela. Jazakumullahu khair. Donc, je pense qu'on va se limiter à cela, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Jazakumullahu khair d'être venu. On va faire un dua vite fait, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ihdina wa ihdi bina waj'alna sababan min ihtada. Allahumma aghsilna min khashyatik ma yahulu bayna wa ma asik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla taj'al al-hazna idha shi'ta sahla wa innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma iftah 'alayna kitabal 'arifin warzuqna al-hikmata wal 'ilma wad-din. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum.